La pluie et la neige qui descend des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer. Alors c'est admirable cette coïncidence entre la terre et cette rosée bienfaisante du ciel, entre la parole et notre cœur assoiffé. Quelle magnifique harmonie! Mais si nous lisons les versets qui précèdent immédiatement ce qui vient d'être cité d'Isaïe, c'est très différent. Que dit le Seigneur ? « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes chemins au-dessus des vôtres. » Où est l'harmonie ? Dieu ne pense pas comme nous. Et peut-être que la première des caractéristiques de notre relation à la parole, c'est un hiatus, un gap, une disproportion. La parole, eh oui, dans un premier temps, n'est pas faite pour nous, n'est pas faite selon nous. Les pensées de Dieu, elles viennent nous heurter, voire nous scandaliser. C'est ce que dit Jésus. Vous avez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Regardez et vous ne verrez pas. Jésus, eh bien, en citant ces versets d'Isaïe, est en train de nous dire « Ne faites pas comme si vous compreniez. Ne faites pas comme si vous aviez vu, entendu. Acceptez d'abord que cette parole vous dépasse, vous déplaise, vous scandalise. » Souvenez-vous ce que disaient les gens quand Jésus a prononcé le discours du pain de vie en Jean 6. Cette parole est dure. Et Jésus va rajouter, oui, elle vous scandalise. Cette parole est dure. Quand on parle de dureté dans la Bible, à quoi on pense ? On pense au cœur dur, scléros. Eh bien, Jésus nous dit, il y a autre chose qui est dure, c'est ma parole. Scléros, c'est le même mot. Eh bien, ne disons pas trop vite que la parole, c'est une rosée bienfaisante. La parole, c'est d'abord ce roc dur, le seul qui puisse affronter notre orgueil, notre suffisance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que nous avons, en face de nous, une force qui nous résiste et finalement qui nous arrache à notre égoïsme, à notre orgueil dont nous serions prisonniers. C'est la parole d'un père, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et ces mots m'ont fait penser au père Lamy. Le père Lamy, quand il avait un jeune qui se laissait entraîner par ses passions dans son patronage, il y en avait qui se mettaient en fureur, nous dit-il, jusqu'à tout casser. Je leur disais, tu peux me frapper, mais tu ne m'empêcheras pas de te dire la vérité. Je la leur disais, et au bout de quelque temps, le retour s'opérait. Voilà, cette parole roc, cette parole peut-être grain de sable dans l'engrenage si bien huilé de notre suffisance, à partir de là, seulement, elle peut devenir rosée. Et nous l'assimilons comme la pluie est assimilée par la terre sur laquelle elle tombe. Assimilée. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, qu'est-ce que me disaient mes parents quand on se mettait à table ? N'avale pas tout rond. Vous vous souvenez de ça, hein ? N'avale pas tout rond. Qu'est-ce que ça veut dire avaler sans mâcher ? Ben oui, parce qu'on peut s'étouffer. Mais surtout aussi, si on avale tout rond, eh bien, sans mastication, la nourriture ne libère pas son pouvoir nutritif. Est-ce que nous, trop souvent, on n'avale pas tout rond la parole ? Oh, pour nous en débarrasser, comme disait le curé d'Ars, je lui dis bien 2-3 paroles et après je suis quitte avec lui, ou j'écoute 2-3 paroles de lui et ensuite je suis quitte avec lui. Non, cette parole, il faut la broyer. Oh, les pères de l'Église ont des magnifiques images avec tout cela. Et pour cela, il faut du temps. Vous voyez, si on veut tout de suite tirer le jus de la parole, elle va nous décevoir. Ce grain semé au bord du chemin, tout de suite il est arraché. Il n'y a pas de temps. Et il faut donc pouvoir s'ennuyer parfois avec la parole. N'allons pas tout de suite aux livres de spiritualité, d'autodéveloppement, etc., qu'on comprend mieux et qui nous flattent. La parole, avec ses exigences, en ce sens qu'elle nous rebute parfois. Deuxième point, il faut de la profondeur. Qu'est-ce que c'est que la profondeur ? C'est l'étude. Inutile de nous confronter à la parole si nous ne l'étudions pas. La méditer. Je suis frappé quand on lit par exemple les sermons de saint Augustin sur les psaumes, de leur qualité et de leur profondeur, ces sermons qui ne s'adressaient pas à l'élite intellectuelle de l'époque, mais au bon peuple d'Hippone qui passait des demi-heures et des demi-heures à écouter son brave pasteur expliquer les psaumes et qui tâchait de comprendre. Paul VI disait qu'il était passablement attristé du décalage entre la culture profane magnifique, subtile, développée que nous pouvions avoir et la culture religieuse si indigente, voire misérable avec notre catéchisme de 10 ans. Pourquoi ? Ce qu'il y a de plus noble, nous le négligeons. L'étude, je pensais aussi à nos frères juifs. De tout temps, depuis le Deutéronome, l'étude est un commandement. Tu méditeras cette parole, tu la garderas dans ton cœur. Mais plus encore depuis que les Juifs ont perdu leur sanctuaire. Plus de lieu où méditer, plus de lieu où offrir les sacrifices. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reconstituer un temple spirituel. Et ce temple spirituel, c'est l'étude. Cette patrie spirituelle, ils ne peuvent s'en passer, mais c'est à eux de l'édifier par le sérieux de leur étude. Et je me disais, mais nous, ne sommes-nous pas en train de perdre notre patrie spirituelle ? Tout autour de nous, les références chrétiennes s'étiolent, nos églises de campagne vont devenir des salles de concert, je ne dis pas ça du tout de manière polémique. Autrement dit, oui, notre royaume s'élan à l'intérieur de nous-mêmes par la parole que nous méditons et qui nous forme et qui nous forge. L'étude, n'hésitons pas à nous plonger dans les théologiens. Dernièrement, la cause de béatification du cardinal de Lubac a été ouverte. Ne disons pas que c'est un auteur difficile, c'est d'une clarté absolue. On comprend tout. Le magistère de notre pape François, le lisons-nous, ses encycliques, ça aussi c'est de la lumière. Et quel est le fruit de tout cela ? Eh bien c'est qu'à partir de là, la parole qui était ce roc extérieur qui nous heurtait va devenir un roc intérieur sur lequel on va pouvoir construire. Nous assimilons la force de Dieu en assimilant la parole. Mais avez-vous fait attention ? Quelles sont les bonnes terres pour Jésus ? C'est ceux qui comprennent la parole. Je me disais, il y en a dans l'histoire sainte qui ont écouté la parole et qui ne l'ont pas comprise. Adam et Ève. Ils ont entendu une consigne du bon Dieu. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de celui-ci, vous n'en mangerez pas. » Ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas comprise. Et le démon a eu beau jeu d'ôter cette parole de leur cœur, comme les oiseaux viennent picorer les grains sur le chemin. La parole n'avait pas poussé ses racines, ils étaient vulnérables. L'antiverbe, comme l'appelle Jean-Paul II, le démon, a semé tout ce qu'il y avait de plus pervers et de plus délétère dans leur cœur. Voilà, et celui qui, en revanche, médite la parole jour et nuit, comme dit le psaume 1, eh bien, c'est en lui que va s'édifier une cathédrale intérieure. Tout en lui, petit à petit, s'éclaire par la lumière de Dieu. Tout prend un sens, tout s'ordonne. Alors, un tel homme est émerveillé par la beauté de Dieu, par la splendeur de sa foi. Il se livre au royaume et y travaille avec ardeur. Il devient un apôtre. Eh bien, demandons à la Vierge Marie, qui méditait toutes ces choses dans son cœur, d'avoir cette même vigilance à ne rien perdre des faits, gestes et paroles de Jésus, pour qu'en nous s'accomplisse son mystère pascal et qu'il fasse de nous des vrais apôtres.